Julie Boulay en feu aujourd'hui pour et on va appeler pompier de Shawinigan pour l'éteindre. Viens commenter l'actualité à partir de maintenant.
Midi plus. Les sujets de l'heure. Voici. Robert Pilote au 106.9 Mauricie.
Alors, il y a toutes sortes de sujets à commenter. Là, on y reviendra tantôt sur ABI. On va parler sur des taxis. Vendredi dernier, un incident. Bah, non, là, c'est moi qui dis incident. C'est plus qu'un incident. On va appeler ça un événement malheureux, dramatique, OK? Parce qu'il y en a qui ont appelé ça un incident, mais quand quelqu'un fait une tentative de suicide ou qui menace de s'ouvrir les veines à TV, c'est grave parce que ça peut avoir un effet d'entraînement. Et tout ça est lié à ce qui se passe dans l'industrie du taxi actuellement.
Ça témoigne d'un grand désespoir là, pour une grande majorité de ces gens-là. Ouais. Alors, c'était je ne vais pas dire une image très forte, ouais, là, Robert.
Mais y a-tu un peu de manipulation là-dedans? Quand tu t'en vas à TV, tu peux toujours faire une tentative de suicide en privé dans ton auto, 5 personnes, mais là, tu es à heure de grande écoute, à la télévision, tu fais ça à TV. Y a-tu un petit peu de chantage émotif, de manipulation émotive?
Tu veux dire que ce geste-là aurait pu être prémédité, de penser puis dire à la fin de mon allocution,
je vais faire ça? On
a
tout le temps dit, OK, moi, depuis que je parle de suicide, là, depuis que je fais ce métier-là, on m'a tout le temps dit que le suicide, là, l'effet recherché, c'est pas la mort.
Le premier c'est provoqué.
C'est d'attirer l'attention sur sa souffrance, le mal que tu as de vivre et tout ça. On m'a tout le temps dit ça. Est-ce que c'est ça qui est arrivé là? Quelqu'un qui veut dire à la population du Québec, ouvrez vos yeux sur le drame que l'on vit actuellement. Puis j'ai beaucoup entendu en fin de semaine de chauffeurs de taxi parler des familles qu'ils ont à nourrir. Ça aussi, je trouve que ça ressemble un peu à de la manipulation, l'espèce de manipulation émotive, parce que, regarde, tous les travailleurs qui ont des conflits de travail, qui ont des problèmes dans la vie, tout le monde qui est père ou mère de famille a des enfants à nourrir. Alors, c'est moi les enfants que vous avez à nourrir.
Oui, Robert, moi, je ne ferais pas la psychanalyse de la situation de la personne là, en question, mais puis je pense que le Doc Mailloux a sûrement peut-être eu des réflexions à cet égard-là, là, mais il y a un profond malaise, là, puis ça peut devenir un drame humain. On parle d'un drame humain pour l'ABI, les gens qui sont en lock-out actuellement. Robert, on parle puis on crie à l'injustice pour les 9000 travailleurs de SNC-Lavalin. Alors, c'est 9000 travailleurs travailleurs de l'industrie du taxi au Québec qui vivent un drame épouvantable.
Mais on va encore avoir besoin de chauffeurs de taxi.
Mais Robert, c'est parce que les autres qui écoutent ce qu'ils disent et peut-être qu'ils ont l'impression qu'on ne comprend pas bien leur message, puis qu'ils essaient de jouer peut-être sur nos émotions. Oui. Là, peut-être que ta réflexion a un certain sens, jusqu'à quelle limite, c'est pas à moi de le juger. Mais moi, je comprends leur désarroi, leur désespoir. Moi, je comprends ça, Robert. C'est comme les quotas de lait en agriculture. Le gouvernement défini qu'il y avait des règles, qu'on ne donnait pas des quotas de lait à tout le monde. Fait que les quotas de lait, les fermes laitières au Québec ont pris de la valeur. Les agriculteurs, quand ils vendent leurs fermes, c'est le quota qui vaut de l'argent. Alors, parce qu'il n'y en a pas partout, on ne peut pas en avoir, on ne peut pas en acheter, parce qu'ils ont créé, je ne dirais pas un monopole, mais une exclusivité. Alors, c'est la même affaire pour les permis de taxi. Le gouvernement a réglementé pour s'assurer que c'était pas n'importe qui pouvait acheter un permis de taxi à 10$, prendre une bagnole, puis avoir une voiture qui était pas sécuritaire, puis embarquer le monde. Puis alors, on a réglementé, donc, le prix des permis s'est mis à croître au fil des années parce qu'on n'en émettait plus de nouveaux. On a limité.
On s'entend pour dire que c'est une question d'argent. Okay.
C'est une question d'argent.
Voilà.
Le nerf de la guerre, là, c'est
peux-tu
une question
avancer?
D'argent.
J'ai pensé à ça en fin de semaine. Là. Hypothèse de travail. Okay? Le permis, il est acheté 100 000 $. Ça va?
Oui.
Ben, s'il y a une preuve qu'on a acheté le permis 100 000 $ l'année passée, ben, on redonne 100 000 $ avec une certaine plus-value. Tu prends un permis qui a été acheté il y a 5 ans, il a été acheté 18 000 $. Ben, tu payes 18 000 $ avec une plus-value. Parce qu'il est question de spéculation.
Tu payes ce qu'il vaut aujourd'hui, c'est ça que tu me dis.
C'est ça, mais oui. Avec une plus-value. Moi, je pense
que c'est... Un peu comme la valeur des maisons. Quand on fait l'évaluation municipale, nous donne le prix de la valeur actuelle de notre maison, peu importe le prix qu'on l'a payé.
Mais non, le prix payé.
Le prix payé.
Moi, je pense qu'avec une bonification, si tu pars de cette base-là, celui qui dit « je vais tout perdre parce que je l'ai payé 200 000 », puis là, le gouvernement me dit qu'il veut me le racheter 100 000, ça n'a pas d'allure, je vais perdre 100 000. Alors, ce qu'on devrait faire, c'est racheter les permis au prix où ils ont été payés avec preuve à l'appui.
Mais s'il a été acheté il y a 20 ans, Robert, puis qu'il a été payé 15 000 piastres. Je te dis,
il y a une bonification, un calcul savant qu'on peut faire avec les années pour donner une valeur tangible à ce permis qui a été acheté il y a très, très longtemps.
Ben, il y a des formules mathématiques qui peuvent être mises sur la table, ben, évidemment, Robert.
Pourquoi c'est pas ça qu'on entend?
Ben, parce que premièrement, il a offert ces 250 millions qui avaient été mis en place par le gouvernement libéral. Ouais. C'était pas pour racheter les permis parce que nous autres, les libéraux, on était en train encore de chercher des solutions. Il y avait des projets pilotes, puis il y avait des discussions qui se faisaient encore. Là, le gouvernement de M. Legault a avancé un autre 250 millions. Ça fait 500 millions. On estime que si on paye... Puis là, ça donne à peu près 30 % de la valeur, 30-40 % Robert, 40 % de la valeur de leur permis en compensation. Et pour la plupart d'entre eux, c'est leur fonds de retraite. Alors, ils se disaient, moi, un jour, je vais vendre mon permis. Mon permis en vaut 200 000. Alors, un, ça va être mon fonds de retraite. Puis deux, il y en a plusieurs qui l'ont acheté récemment puis qui sont encore endettés sur ce coût-là. Alors, il y a une dette qu'ils portent. Et en plus, de l'autre côté, ça devient leur fonds de retraite. Alors, moi, je pense, Robert, qu'il faudrait, comme tu le dis, je ne connais pas la formule qui devrait être préconisée, mais il y a un terrain, il y a une piste d'atterrissage à quelque part, ça ne se peut pas. Et si c'est plus d'un milliard de dollars, Robert,
c'est un milliard 300 millions, on l'a dit la semaine dernière.
Pourquoi qu'on ne leur dit pas, on va vous compenser, mais on va prendre 5 ans, on va échelonner les paiements qu'on va vous faire sur 3 ans ou sur 5 ans. Et la facture pour les contribuables, en bout de ligne, si on est capable de l'échelonner dans le temps, est beaucoup plus raisonnable.
Tu fais payer les nouveaux joueurs. S'il y en a qui arrivent, s'il y en a, les Uber et les autres, les Lyft arrivent dans le marché, tu les fais payer, puis éventuellement, ce sera à coût nul pour les citoyens, et puis tout le monde sera content.
Alors, il y a des choses à envisager, à analyser, mais il faut trouver une piste d'atterrissage. La situation telle qu'elle est intenable, est intenable pour ces chauffeurs de taxi-là. Puis dans le nouveau projet de loi, comme le disaient les chauffeurs de taxi, comment on va garantir que les nouveaux, là, qu'il n'y aura pas de règlement, on va aller chercher nos personnes aînées qui restent au troisième étage parce qu'une course de cette nature-là leur demande beaucoup plus de temps puis n'est pas nécessairement plus payante. Comment on va faire le transport des personnes malades, des personnes qui sortent des... Alors, il y a des trous, il y a des failles là, au niveau du service que cette nouvelle façon de faire, comment les chauffeurs de taxi vont pouvoir répondre à la population, à tous les gens de la population.
376-1069, une dame au téléphone veut nous parler maintenant. Je ne sais pas, est-ce que c'est son sujet, c'est Rolande qui est là? Raymonde, bonjour Raymonde.
Bonjour Raymonde.
Bonjour, messieurs, dames. C'est au sujet des permis de chauffeur de taxi. Mettons, je regarde ça comme avec beaucoup de recul. C'est une idée comme ça, parce que je comprends qu'il y a un désarroi là, pour les chauffeurs de taxi et tout ça, leurs permis ne valent plus rien. Mais je me dis, on est en business, là, c'est une question d'argent. Je me dis, comment qu'on pourrait donner de la valeur à ces fameux permis-là? Là? Puis là, parallèlement à ça, il y a Théo Taxi que les gens semblaient bien apprécier, puis que c'est comme ça vaut plus rien, il y a de l'argent qu'il faut réinjecter là-dedans. Fait qu'il y aurait pas moyen de les permis de taxi deviendraient comme disons, ça pourrait être comme des parts de cette industrie-là du Théo Taxi. C'est 50 000 $ une part, dépendamment du prix qu'ils ont payé que leur permis vaut là. Donc ça, il y a pas moyen là, d'ajuster ces deux-là, je sais pas. Là, il me dit, parce que c'est bien beau, là, attendre après le gouvernement qu'il fasse quelque chose, là, mais aussi, il faut être capable de survivre bas, puis avoir des nouvelles idées, puis faire quelque chose avec ça. Là. Il y a une industrie là qui est en gros changement, puis on a des solutions. Là. Il y a comme un paquet de dossiers là-dedans. Enfin, Théo Taxi, c'est bon. Les permis, faut donner une valeur à ça. Il me semble qu'il n'y a pas une formule, quelque chose à faire avec tout ça. Là.
Votre commentaire est très pertinent, puis je pense que Robert et moi, là, j'ai la même enseigne que vous. Là. Il faut trouver une nouvelle façon, il faut innover. Oui. Théo Taxi, c'est un modèle qui était inspirant, je pense que si on est capable de récupérer le modèle d'affaires, c'est intéressant d'avoir des taxis électriques. Maintenant, c'était la gouvernance qui répondait pas, qui pouvait pas faire en sorte que cette entreprise...
L'application était bien également.
Les chauffeurs, même s'ils étaient stationnés. Il y avait dans le modèle de gouvernance quelque chose qui pouvait pas survivre, qui ne pouvaient pas rentabiliser
l'entreprise. Une chose est certaine, le statu quo n'est pas possible. Le problème, c'est que les chauffeurs de taxi prônent le statu quo. Il est là, le problème, actuellement. Il faut que ça bouge.
Eh bien, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut trouver une conjugaison du meilleur des deux mondes, mais en même temps, il ne faut pas pénaliser ces gens-là, Robert, parce qu'ils ont raison d'être au bout de leur corde, là, parce qu'ils ont raison de trouver que c'est désespérant, que... écoutez, il y en a plusieurs de ces gens-là qui ont un certain âge, et puis quand tu dis « c'était mon fonds de retraite », bien, on peut comprendre à quel point ils sont désespérés.
Hey, merci beaucoup d'avoir téléphoné. T'es très sympathique.
Bienvenue. Bonne journée.
C'est la pause maintenant de la demi à 376-1069. Au retour, on va parler du crucifix, si tu veux. Es-tu d'avis qu'on pourrait en parler du crucifix?
Oui.
As-tu vu le sondage?
Les Québécois sont déchirés à l'égard de ce sujet-là.
Non, mais tu l'as vu, le journal?
Oui, oui, j'ai vu.
Si tu penses que la question est mal posée ou mal foutue ici?
Non.
Ça me semble que c'est mal fagoté,
non, je pense que c'est un attachement au patrimoine.
Oui.
Alors, les gens sont d'accord avec la loi de M. Legault en grande majorité, surtout le Québec francophone. Je pense que là-dessus, on s'entend, mais ils sont attachés aux symboles, au patrimoine qui sont
Nous en débattons, si vous le voulez, tout de suite.
Après
la pause. Midi 34 minutes. Alors, au téléphone, on va parler de taxi et éventuellement de laïcité. Non, c'est parce que tu as vu le Journal de Montréal aujourd'hui.
Oui.
On a beau faire des sondages. Bon, les sondages, sauf que tu te retrouves avec des gens qui disent « Moi, les signes religieux, je veux qu'ils restent là, le crucifix à l'Assemblée
nationale. » Mais ça, c'est leur cœur qui parle, Robert.
C'est le cœur.
Oui, c'est leur cœur. Alors, il y a la dualité, le cœur et la raison.
Oui.
Alors, la raison, on est tous d'accord qu'il faut un projet de loi, qu'on passe à autre chose, qu'on arrête d'en parler, puis qu'on soit plus clair sur cette question de la laïcité. Mais en même temps, notre cœur nous fait mal quand on parle d'enlever le crucifix dans les institutions publiques parce que ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Moi, je peux comprendre ce déchirement-là dans le cœur des Québécois, mais je me dis que si le gouvernement veut être cohérent, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut qu'il l'enlève.
Il faut qu'il l'enlève.
Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix.
Même qu'il donne
il doit le mettre dans un endroit particulier où on est capable de relater l'histoire, les années, les décennies où le crucifix a joué un rôle déterminant dans la société québécoise, mais qu'aujourd'hui, on est ailleurs.
Je ne sais pas si c'est Y qui a fait une caricature la semaine dernière. Tu as vu passer celle-là, Serge? Le crucifix à l'Assemblée nationale qui est fait avec deux bâtons de hockey. Parce que ça, c'est vraiment représentatif
c'est plus rassembleur, en tout
de
cas.
La nouvelle religion du Québec, c'est-à-dire le hockey et le sport.
Tu le disais tout à l'heure quand tu es allé au Cataract. C'est vraiment, vraiment, le sport, c'est rassembleur.
Maxime, pour parler taxi. Bonjour, Maxime.
Bonjour, Maxime.
Bonjour. J'appelais concernant les permis de taxi. Moi, je vois ça comme une PME ou comme des travailleurs autonomes. Ce que je veux dire, c'est que si t'es travailleur autonome puis que t'as investi, mettons, dans des outils pour devenir, un homme à tout faire, puis que soudainement, tout ce que tu fais, ça c'est plus légal ou quelque chose de même. Tu vas perdre ton argent. Tu vas-tu aller voir le gouvernement pour dire ça? Ou, tu sais, les garages qui ont des stations à essence, le jour où on a juste des chars électriques, les garages vont-tu arriver et dire « Ah, ben là, on perd de l'argent parce que vous avez défendu les chars à essence sur nos routes. »
Ben la différence que je dirais, Maxime, la différence, c'est juste que les règlements qui encadraient cette industrie-là, les règlements ont été mis en place, les règles du jeu ont été mis en place par le gouvernement. C'est pas des entreprises privées, autonomes. Ils fonctionnent dans un cadre réglementaire qui a été établi par le gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement change les règles. Alors, c'est là qu'ils disent que ça marche pas. C'est comme si demain matin, vous enleviez tous les quotas dans l'agriculture. Vous dites, il y en a plus de quotas maintenant. Vous vendez votre lait, puis n'importe qui peut avoir des fermes laitières, vendre son lait, le fromage. Il y a plus. Vous le savez, quand il y a des ententes qui se négocient avec l'Union européenne, puis avec les États-Unis, comment les agriculteurs se mobilisent pour défendre la présence de quotas dans leur industrie. Bien, l'industrie du taxi, elle est réglementée un peu dans le même sens que l'industrie agricole au Québec. Alors, c'est là qu'ils disent, bien, moi, j'ai acheté en fonction de règles qui existaient, puis maintenant, le gouvernement change les règles. Alors, il y a comme un paradoxe, là. Et c'est là-dessus qu'il y a une responsabilité gouvernementale.
C'est un peu pour ça que j'apportais l'exemple de les stations d'essence, à vous en dire que si on passe des lois pour seulement des autos électriques, ça va revenir au même aux stations d'essence.
Merci beaucoup d'avoir téléphoné,
merci,
très pertinent.
Merci, Maxime, merci.
Au téléphone, toujours, c'est un sujet qui fait réagir. Oui. C'est André, cette fois-là, à 376-1069. Bonjour, André.
Bonjour.
Bonjour, André.
Bonjour. Il y a une chose que le monde ne parle pas pour les taxis. Là. Le gars qui a fait son permis, il y a 10 ans, qui a payé, on va dire, 50 000 $. Puis depuis 10 ans, il a fait 20 000 $ par année de travail au noir. Ça fait 100 000 de plus, ça, là.
Ouais, là, c'est autre chose.
Non, mais là,
t'as un autre débat.
30% du revenu. 30% de revenu. Le reste, c'est pas déclaré. Fait que si pendant 10 ans, t'as fait 20 000 $, ça fait 200 000 $. Pourquoi se mettre à genoux pour lui rembourser ça?
Je ne comprends pas la notion du travail au noir. S'il y a un permis de taxi, monsieur, il va faire du taxi.
Monsieur, le monde, il fiole parce que Uber ne paye pas le taxe, lui, c'est pas lui, ci, lui, ça. Il ne faut pas de taxi, en tout cas, à Trois-Rivières. Je ne parle pas de Montréal, je ne connais pas. C'est Trois-Rivières, moi. Il ne faut pas de taxi de Trois-Rivières, il déclare 30% du revenu. Je connais même quelqu'un qui travaille pour un faux de taxi, puis il gagne 500 à 600 piastres net par semaine, pas déclaré. Ben, s'ils peuvent payer un employé à 500-600 piastres par semaine, pas déclaré, c'est parce qu'ils font du noir à attendre. C'est là que je ne comprends pas. Ça, il n'en parle pas, personne n'en parle de ça. Dernier petit point rapidement.
Oui.
Tout à l'heure, Mme Boulay là, est en feu à cause du gouvernement qui parlait de. Ben, moi, je trouve ça insultant comparer les libéraux aux Pee-Wee. C'est insultant pour les Pee-Wee.
Tantôt, elle disait
que c'était dénigrant. C'est bien plus dénigrant les libéraux qui passent à Commission Charbonneau que ces choses-là. Là. Tu sais, pas d'accord.
Merci beaucoup.
Oui, M. Legault, je trouve que ça un bon job, puis il continue.
À bientôt. Merci d'avoir téléphoné.
Merci.
Puis tu vois, on pense tout le monde quand même. Là, c'est parce qu'il voulait te faire une rebuffade.
Mais c'est
là.
Pas grave.
Non, mais c'est correct.
C'est correct. Tout le monde a le droit à ses opinions, Robert. Que l'industrie du taxi fasse du noir comme ça, moi, j'ai aucune statistique. Je peux pas confirmer ou infirmer tout ça. Ça serait intéressant d'entendre les gens de l'industrie du taxi. Oui. Moi, je pensais qu'ils étaient tous avec des compteurs et que c'était, en tout cas, beaucoup plus encadré que ça l'a déjà été.
Bon, on se garde encore le crucifix pour tantôt. Hans Brouillette de la Corpic est avec nous autres. Je voulais parler de ça. Je sais pas si toi, tu as des blocs à appartement. Si tu as des logements, si tu en as, est-ce que tu permettrais à celui qui habite au-dessus ou en dessous de toi de fumer son gros joint 4 fois par jour? Parce que, tu sais, veut pas, le cannabis, ça sent fort. Ça dégage des odeurs qui peuvent devenir incommodantes. OK? Hans Brouillette, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, M. Brouillette.
Est-ce que c'est un problème que vous avez en contrôle?
On essaie de le contrôler, mais malheureusement, c'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes et il y a beaucoup de, disons, de non-respect. Effectivement, les propriétaires, depuis plusieurs années, ont réduit la possibilité de fumer dans les logements. Alors, quand est arrivée la légalisation du cannabis, ils se sont dit, oh, là, il faut s'assurer que les gens vont pas se mettre à fumer du cannabis. Et donc, beaucoup ont même ajouté des clauses. Ils avaient des baux, des fois, permettant de fumer. Mais ils ont dit non, le gouvernement vient de nous donner la possibilité, on va l'exercer, d'ajouter une clause interdisant de fumer du cannabis. Mais l'application de ça, c'est loin d'être facile.
Bon, là, il y a un jugement qui est sorti. Celui qui fume à des fins médicales, lui, sans problème, il va pouvoir continuer bail pas bail, là.
Ouais, bien, regardez. Effectivement, le gouvernement avait amendé son projet de loi l'an dernier. Le gouvernement libéral avait dit, bien, on va permettre aux propriétaires d'ajouter une clause interdisant le cannabis sans possibilité pour le locataire de s'y opposer, sauf si le locataire en a besoin pour des raisons médicales. Et on va laisser au tribunal le soin de décider quelle preuve médicale doit être fournie. Et effectivement, des milliers de propriétaires ont utilisé cette possibilité dans la loi et ont envoyé un avis interdisant de fumer du cannabis. Et là, bien sûr, on a eu ce cas-là qui fait les manchettes là, depuis quelques jours, où la locataire, n'ayant même pas de certificat médical, a réussi à convaincre la juge Francine Jaudoin de la Régie du logement que finalement, ben, elle en avait besoin. Elle s'était auto-prescrit du cannabis à des fins médicales. Et la juge, a donné son approbation et a fait en sorte que aujourd'hui on a un jugement où une locataire sans prescription médicale vient, si on veut, là, contrecarrer le choix et le droit du propriétaire d'interdire de fumer du cannabis.
Mon Dieu, c'est sérieux pareil, hein, oui, M. Brouillette, oui. C'est tout un débat hein, qui va... Parce que je sais que dans les condos, là, ceux qui demeurent en condo, les associations de condos définissent déjà qu'ils n'accepteront pas de cannabis dans les appartements. Alors, tantôt, ça va... En tout cas, il va y avoir toutes sortes de situations.
Mais depuis octobre, là, okay, on s'entend que c'est légal. Là. Est-ce que vous avez documenté des cas où certains ont vu leur vie être empoisonnée par ceux qui fument dans les logements?
Ah, bien avant ça, bien avant octobre, c'est sûr qu'il y a toujours eu des gens qui fumaient en contravention avec le bail. On finit par obtenir une ordonnance ou même dans certains cas, la résiliation du bail, plus rare. Dans le cas du cannabis, malgré l'interdiction, certains fument. Donc, les propriétaires, généralement, obtiennent gain de cause lorsqu'ils doivent se rendre au tribunal. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a une juge qui, disons, fait fi de ce que le gouvernement a fait adopter à l'Assemblée nationale comme droit des propriétaires. On a une juge qui, ma foi... pratique quasiment la médecine de façon illégale en disant, ben oui, moi, je considère que c'est valable que cette locataire-là a besoin de cannabis pour soulager ses maux. Et donc, elle vient permettre à la locataire de contrecarrer l'interdiction au bail. C'est quand même très grave.
Alors...
Et le débat ne fait que commencer parce que, vous savez, au moment où on se parle, le ministre de la Santé et des Services, ministre délégué à la Santé et des Services sociaux, Lionel Carman, travaille sur le projet de loi 2 qui vise à recadrer la loi sur le cannabis. Alors, nous, on demande au ministre, écoutez, vous voyez la brèche qu'une juge vient d'ouvrir, il faut la refermer, il faut préciser quelle est l'obligation du locataire qui souhaite continuer de fumer pour des raisons médicales, quelle est l'obligation de fournir une preuve. Et ça doit être revu.
Merci beaucoup, M. Brouillette.
Merci, M. Brouillette. C'était très clair comme explication.
À bientôt.
Merci à vous.
Bon, là, il faut s'arrêter pour l'autre pause. J'ai vu passer ça, c'est une nouvelliste qui a parlé de ça, là, il y a quelques instants. Tu sais que Fred Pellerin, tu le sais, tu as travaillé dans le domaine du tourisme. Comment il est important chez nous, Fred Pellerin?
Il est déterminant, en tout cas, pour sa communauté, puis je dirais pour la région aussi. On est très heureux d'y être associé, en tout cas.
Tu sais qu'il y a de la magouille à Saint-Élie-de-Caxton, autour de la ville,
les villages de Noël, les visites touristiques, tout simplement.
Tu sais qu'il voulait faire une salle de spectacle de 300 places. Là, selon ce que nous rapporte le Nouvelliste, là, qui est allé à sa rencontre ce matin, c'est François Houde du Nouvelliste qui est allé là. Fred Pellerin a dit qu'il y a trop... l'écriture du nouveau compte, ici, je veux juste citer le journaliste correctement. Le compteur a expliqué son abandon du projet de la salle de spectacle en indiquant que le projet de l'ordre d'un million, l'impliquant lui et des partenaires, était plombé par trop d'incertitudes pour qu'il puisse le mener à terme. Tu vois la maudite...
Je comprends pas, moi, Robert. Je comprends pas où loge... Je vais dire la municipalité, mais c'est peut-être pas juste la municipalité, là. Mais où loge ses opposants? D'où origine la controverse? Je comprends pas. Quand t'as un moteur, un moteur économique touristique comme Fred Pellerin dans un village, là, tu te colles dessus. Tu te colles dessus. Oui. Puis tu vas de l'avant avec ses projets parce que c'est une vitrine exceptionnelle.
Absolument.
Vitrine, là, que t'es capable de vendre partout dans le Québec.
Un gars qui va avoir une carrière qui va durer encore 20, 30
partout,
ans.
Partout, il va se promener, là. Il parle de son village natal.
Oui.
Alors, moi, je comprends pas d'où origine cette opposition-là au projet de Fred, que ça soit celui-là, ou même quand on parlait des visites, là,
dans le temps des fêtes, là, il y en a aussi avec les charrettes à foin.
Moi, je me rappelle, il était venu me voir, Robert, quand j'étais ministre du Tourisme. Il était venu avec le maire de l'époque et il y avait des projets pour la ville. Il disait, faut construire des infrastructures pour recevoir les gens, parce que quand on les reçoit, on n'a pas de toilettes pour les accueillir, on n'a pas d'endroit où ils peuvent se réchauffer. On n'a pas de personnes qu'on peut embaucher pour chauffer les autobus. Tout était tenu par des bénévoles à bout de bras. Et ça faisait plein de sens. Il disait, on veut structurer notre village pour être capable de développer un produit touristique encore plus riche, encore plus... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on a, comme je dis, un leader ou quand on a une locomotive comme Fred Pellerin dans un village...
Tu te colles dessus.
Tu te colles dessus puis t'endosses. T'essaies de l'accompagner, de le soutenir dans le développement, dans ses initiatives, parce que normalement, Fred, ce qu'il fait, ça réussit toujours bien.
Tout de suite après la pause, là, on va finir par... On va parler un peu de laïcité. Je sais qu'il y avait trois ou quatre sujets. Ça va tellement vite. Non, mais l'actualité est effervescente.
Ça bouge tellement vite avec
On s'approche de Pâques, c'est toujours la pêche miraculeuse.
Il y avait le salon du livre en fin de semaine.
T'es allé faire ton tour?
Oui, je suis allé faire mon tour.
OK, tu m'en parles. Garde ça tout de suite après la pause. Midi 51 minutes, la laïcité. Okay. On a mixed feeling là-dessus. C'est un sondage léger qui est présenté dans le Journal de Montréal. Puis moi, je pense que la question est mal posée. Fait que ça donne un résultat incongru. Tu peux pas dire, nous autres, on est pour le maintien des signes religieux là où ils sont, y compris au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, mais en même temps, on est pour le projet de la laïcité du gouvernement du Québec, puis on veut mettre un terme. 89 % des gens disent, nous autres, on veut mettre un terme au plus sacrant.
À ce sujet-là, à ces discussions-là, ce débat-là. Mais moi, je pense que ce n'est pas incongru. Je pense que ça reflète le déchirement que ça provoque. Oui, on est tanné d'en parler. Oui, on veut que ça soit réglé, mettre tout ça derrière nous. Puis oui, on veut un État laïque. Mais en même temps, ça vient nous chercher, ça vient nous titiller le cœur quand on veut enlever le crucifix à l'Assemblée nationale ou dans les institutions publiques. Les gens, là, ça les touche. C'est plus la raison qui parle, mais c'est le cœur, Robert. Et on voudrait être capable de conjuguer avec les deux, avec notre raison puis avec notre cœur. Et c'est ce qui provoque des résultats de sondage de cette nature-là. Alors, les gens ont franchi la première étape, mais celle d'enlever les crucifix, je pense que les gens ne sont pas encore rendus là et que ça va prendre peut-être un certain temps. Mais pour bien du monde, ça devrait rester là parce que c'est un reflet de notre histoire, de notre patrimoine culturel et que ça fait, comme je dis, ça fait partie de nous. Alors, il y a bien des gens qui sont encore là-dessus et moi, je les comprends, bien que je pense que la CAQ n'a pas le choix de l'enlever par cohérence, par principe de cohérence, mais je comprends l'attachement émotif des Québécois à l'égard du crucifix, notamment à l'Assemblée nationale.
Mais Julie, le grand message qu'a lancé François Legault, il a fait un petit discours préenregistré, parce que quand il improvise, d'un fois, il lâche des piouis, là. Il ne devrait pas. Mais ce qu'il dit, entre autres, je pense que ce qui est le plus important et fondamental dans ce qu'il dit, c'est que quand on arrive au Québec, on vit comme les Québécois.
Ça, c'est fondamental. Puis je pense que tous les Québécois, là-dessus, sont d'accord avec cette
assertion-là.
Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que les Québécois le rejoignent là-dessus.
Hey, t'es-tu déjà présenté Mathieu Godreau?
Non.
Je sais pas te présenter. Hey, il vient une fois de temps en temps, souvent le lundi, mais quand il veut aussi souvent commenter l'actualité, c'est un gars de communication.
OK.
Fait quand tu veux savoir quelque chose, tu lui passes un coup de fil. Normalement, il est au courant.
Il est connecté.
Il est pas mal connecté.
D'accord.
Puis pas dans la petite plug, là. Lui, c'est le 220.
D'accord.
Là. Mathieu Godreau, bonjour.
Bien le bonjour, Robert. Bonjour, Mme Boulay.
Bonjour, Mathieu. C'est juste Julie, Mathieu.
Ah ben bonjour, Julie, d'abord.
OK. Là, chez nous, le madame, là. Le pire, c'est que Marc-Antoine Nounès est rentré en studio. Oui. Comment qu'il t'a appelé? Puis c'est la jeune. T'as un jeune, là, en plus.
Il m'a appelé Julie.
Non. Il n'est pas tout à fait. Alors, on n'ira pas là. Je referme la parenthèse. Hey, Mathieu, en fin de semaine, là, on est dans le buffet de l'actualité. Tu t'es nourri à quoi?
Écoute, c'est un melting pot. On se croirait vraiment au buffet chinois avec tout plein de choses à manger. C'est tout d'abord le projet de loi sur la laïcité qui a fait des éclats. Ensuite, le congrès de Québec solidaire qui démontre beaucoup de choses sur ce parti. Le sondage dont tu viens de parler ce matin. Puis moi, je reviendrai sur le sondage. Il manque une donnée importante. J'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure. Il manque une donnée que je considère assez importante dans ce sondage-là. C'est les tranches d'âge. Parce que tout dépendant qui est sondé, puis on sait que les sondages se font à partir de téléphones fixes à la maison, les gens de plus en plus jeunes en ont pas, sont sur les téléphones cellulaires. Donc, souvent, les gens qui ça tient à cœur, le crucifix, tout ça, ça risque peut-être d'être dans une tranche d'âge un petit peu plus élevée, tandis que si on sonde les tranches d'âge plus jeunes, je crois que le crucifix passerait au même niveau que tous les signes religieux.
D'accord avec toi, moi.
C'est ma perception, ça. Parce que le Québécois, moi, dans ma génération, les gens plus jeunes que moi et mes enfants, on a peu d'attachement sentimental envers le crucifix. On n'a pas été élevés là-dedans. Donc, ceux qui prônent la laïcité, le crucifix, c'est exactement la même chose que le voile ou le kirpan ou n'importe quoi.
Intéressant. As-tu suivi le sport un peu en fin de semaine?
Oui, écoute, j'ai suivi mon sport de prédilection.
Le soccer.
Je te dirais que ce fut une très, 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 très mauvaise soirée, mais bon, ça va.
te souhaite de passer une belle fin de semaine. Je sais que tu t'en vas en réunion à 1h, fait que je voulais pas te retenir plus longtemps.
Alors... Non, mais parlant de sport, le plus beau sport qu'on a eu en fin de semaine, par exemple, je te dirais que c'est le patinage artistique de Gabriel Nadeau-Dubois, qui a essayé ses triple axels, mais qui s'est enfargé pas mal tout seul dans ses lacets.
OK, puis tu veux dire quoi par ça? Je peux pas te laisser partir sans que tu t'expliques, là. On peut pas lancer des injures dans cette émission, puis des insultes.
Oh, c'est pas une injure, c'est pas une insulte, Robert. Si tu me connaissais mieux, tu saurais que je suis assez plus injurieux que ça dans la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que Québec solidaire, en votant justement contre la Charte de laïcité, on s'en attendait, mais pour le port du burqa, pour le port du niqab, écoute, Gabriel Nadeau-Dubois, le connaissant, je sais que lui-même, individuellement, est profondément contre ça. Il est là depuis dimanche matin qu'il doit patiner pour défendre la position que les membres ont émis à Québec solidaire, qui prend une tangente un petit peu dangereuse, je dirais ici, un petit peu particulière, mais on y reviendra.
Ils auraient dû clarifier ce point-là, hein, Mathieu. Ils auraient dû clarifier sur le niqab puis le...
Oui, ça a été clarifié après le vote sur la laïcité et tout ça, qu'ils ont remporté à 91%. Il y a eu une autre motion qui parlait justement du niqab et du hijab, et ça a vraiment été voté encore à une grosse majorité. Ils sont pour le port dans la fonction publique, peu importe la situation, peu importe le cas. Je trouve que c'est une très, très drôle de tangente, très risquée.
Ce qu'ils disent, dans le fond, là, c'est que tu ne devrais pas être privé d'un emploi dans la fonction publique si tu portes un signe religieux ostentatoire.
Bien, ça, c'est une décision qui se tient, qui se maintient, mais le visage couvert,
Robert, là,
tu connais, Robert. C'est ça. Moi, je suis de très, très, très à gauche et le voile et tout ça, moi, ça me dérange vraiment pas d'envie, là, pas du tout. Là. C'est peut-être une question montréalaise aussi, mais le visage couvert, moi, excuse-moi, c'est non. Ne serait-ce que pour le signe que ça donne du respect de la
message.
Femme et de l'individu. Et on se trompe quand on attaque la femme qui porte le niqab et l'autre habit dont j'oublie le nom. On se trompe, c'est pas ces femmes-là qu'il faut attaquer. Mm. C'est les barbus qui sont derrière eux.
C'est ça,
c'est là le vrai combat.
Les femmes sont emprisonnées dans leurs vêtements. Hein,
les
Mathieu,
femmes sont emprisonnées.
On les juge. C'est ça.
On parle contre les femmes, attaque les femmes parce qu'ils portent ça, mais c'est pas elles, c'est les gars qui sont derrière.
Qui les oblige.
Il faut s'attaquer.
C'est ça, tout à fait.
Merci beaucoup.
Plaisir, bonne journée.
Merci,
bonne
Mathieu.
Bye. Au revoir.
Mathieu, qui s'en va en réunion dans une minute. Regarde, j'ai pêché ça ce matin. Je ne sais pas si tu entends les publicités de ce temps-là. Parlez à vos jeunes de cannabis.
Oui.
Au lieu de les chicaner, là, essayez de les comprendre puis de répondre correctement ou pas n'importe quoi à leurs arguments lorsqu'ils vous disent qu'ils ont envie de fumer du cannabis à 18
puis
ou à 19.
Puis même des gens en ligne disponibles, là, si les parents veulent s'exercer, se pratiquer à savoir quoi dire, comment intervenir.
Exact. Je suis allé sur le site du fédéral là-dessus où ils répondent à toutes les questions là-dessus. De quelle manière le cannabis affecte-t-il la santé des jeunes? Puis là, ils répondent à la question. Mais ils ont mis des dessins, des titres d'images, hein, parce qu'une image vaut mille mots. Puis regarde, l'enfant qui se pose des questions, regarde comment il est accoutré sur le site du fédéral.
Ah, mon Dieu! Puis c'est en lien avec le cannabis,
oui, ça? Oui. Regarde, c'est ça ici, regarde. T'as tout le texte, tu peux le regarder
alors,
si tu veux.
C'est pas un enfant,
là.
Premièrement.
C'est un ado, mettons.
Mais c'est un ado. Mais c'est une personne voilée, là, si je comprends bien. C'est absolument ça que tu veux que je te dise?
Ben oui.
Alors, c'est une personne voilée, là, mais c'est parce que normalement, c'est les femmes adultes qui se voilent comme ça, ou les adolescentes, peut-être, là, mais c'est une personne voilée.
Oui, mais ils ont choisi pour représenter la question de quelle manière le cannabis affecte-t-il la santé des jeunes et le pictogramme ou l'image qu'on a décidé d'utiliser, c'est le dessin d'une jeune adolescente portant le voile, pas intégral. Là. C'est-tu le niqab? Je me trompe toujours, je les mélange. Puis là, ça dit, écoute, c'est comme si cette communauté-là était surreprésentée ceux qui fument, chez les jeunes qui fument du cannabis. La consommation de cannabis régulière ayant commencé au début de l'adolescence et qui se poursuit dans le temps est plus susceptible d'avoir des effets néfastes. Certains de ces effets néfastes peuvent ne pas être complètement réversibles. Puis là, il nous explique pour quelles raisons à 25 ans et tout ça. Et on voit là
une jeune femme voilée avec des points d'interrogation tout le tour qui font comme une couronne au-dessus de sa tête. Là. Mais sincèrement, c'est...
Il y a un fonctionnaire, il y a quelqu'un qui a pris la décision de mettre ça là.
Ben, écoute, le fédéral n'est pas en même place que le Québec sur la question de la laïcité, là, puis sur le port, la restriction de port de certains ports de vêtements, là.
Mais surtout, oui.
Mais c'est particulier.
C'est particulier.
C'est particulier.
Je vais te montrer ça, c'est un petit punch de fin d'émission.
C'est particulier,
De fin de chronique, si tu veux. Ah. L'émission n'est pas terminée encore. je te laisse aller à tes 56 projets. Je sais que tu as une vie palpitante.
Regarde, non, on a plein de choses, comme tout le monde.
C'est vrai. Comme tout le monde? Non, pas comme tout le monde.
Ouais, comme beaucoup de monde.
Il y en a qui sont assis sur le bacon. Non, il y en a qui sont assis sur le bacon, je m'excuse. C'est pas comme tout le monde.
Il faut s'occuper, Robert. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Il faut s'occuper. Il faut essayer de rester actif, autant physiquement qu'intellectuellement, socialement également. Ouais. Je pense que c'est bon pour la santé tout court. C'est un message qu'on devrait passer plus
dans la société. Oui. On a beau dire aux gens...
Il ne faut pas s'isoler. Il faut essayer de demeurer actif, aller marcher dehors, surtout que le printemps arrive, de faire un peu d'exercice, mais de rencontrer aussi des gens. Je pense que ça, c'est salutaire.
Parce qu'il y en a qui se parquent devant le téléviseur, puis rien contre la TV, là.
Ou les ordinateurs aussi.
Puis les ordinateurs, puis les jeux, puis qui passent leur vie devant ça. Pierre Maillot va en parler dans son émission vendredi prochain. C'est un constat qui a été fait aux États-Unis chez les jeunes. Écoute, le nombre de jeunes maintenant qui ne font plus l'amour, qui n'ont pas de relation sexuelle avec un partenaire, peu importe quel partenaire, ça augmente de façon vertigineuse. Je pense que c'est 30%. Pierre m'a parlé de ça ce matin. Pourquoi?
Parce qu'ils sont occupés ailleurs.
Oui, parce qu'ils vont pas, parce qu'ils sont occupés avec le petit téléphone intelligent puis le jeu vidéo, puis on va pas vers l'autre maintenant. Puis on fait beaucoup nos affaires aussi par l'intermédiaire
de l'artificiel,
l'artificiel.
Donc on communique plus de moins en moins avec l'extérieur, les gens autour de nous.
Absolument,
non-tangible. Donc on se concentre, c'est ça. Moi, je pense effectivement que c'est un danger. Ça favorise l'isolement. Puis je pense que le bonheur n'est pas là-dedans.
Le bonheur, il est à 7 heures.
C'est ça.
Salut.
Bye.
C'est toujours un plaisir. Julie,